Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand nous propose de commencer la semaine en musique au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Quelques notes pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Vous avez reconnu l'ouverture de Carmen, l'opéra le plus joué dans le monde et qui au départ était destiné à l'opéra comique. C'est le centre de notre émission cet après-midi. Cette grande maison un peu méconnue, cette salle Favart, un peu éclipsée par Garnier et maintenant Bastille et que je vous propose de mettre à l'honneur en ce début d'après-midi avec notre monsieur musique Thierry Geffrotin et avec Agnès Terrier, commissaire de l'exposition L'opéra comique et ses trésors qui se tient jusqu'au 25 mai à Moulins dans l'Allier, au Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Bruno, Franck, qui s'interroge et vous interroge sur la raison de la présence très forte de noms allemands dans le négoce des vins de champagne.
Voilà une bonne question. Du reste, le champagne a longtemps coulé à flot dans les loges de l'opéra comique.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous étions l'autre jour à la maison de Gustave Moreau. Nous avons visité l'atelier de Gustave Moreau dans la Nouvelle Athènes. Et je vous ai dit à cette occasion qu'on était tout près de chez Georges Bizet. C'est vrai que c'est le quartier, vous savez, on est au milieu vers la fin du 19e siècle. Et ce quartier, c'est véritablement l'endroit, le creuset de la culture, cette Nouvelle Athènes. Georges Bizet a vécu là. Il est né rue de la Tour d'Auvergne. Il a été baptisé à Notre-Dame-de-Lorette. Il s'est marié à la mairie du 9e. Le 3 juin 1869 avec une certaine Geneviève Alévi. Voilà un nom qui nous dit quelque chose. Elle était évidemment la fille de son maître Jacques Fromental Alévi. Ensemble, ils ont loué un appartement rue de Douai au 22, et c'est au 22 rue de Douai qu'est mort Bizet, ce qui fait que quand on passe dans la rue aujourd'hui, on a encore la grande plaque qui indique cette maison. Bizet vient d'un milieu qui est véritablement un milieu artistique. C'est intéressant parce que vous voyez à quel point cette bourgeoisie du 19e siècle aimait les arts. J'en disais autant l'autre jour des parents de Gustave Moreau, bien entendu. En l'occurrence, le père, l'oncle de Bizet, son professeur de chant, sa mère est pianiste, lui-même est inscrit au Conservatoire de Paris dès l'âge de 9 ans dans une classe de piano. 9 ans, c'est-à-dire qu'il avait même pas l'âge requis officiellement pour entrer au conservatoire. Vous voyez, il va d'ailleurs obtenir un certain nombre de prix. Le 3 mars 1875, retenez bien la date, c'est la date de la création de notre opéra de Carmen. On peut dire que c'est une véritable révolution. Ce soir-là, l'opéra comique est plein à craquer pour la première de Carmen, œuvre en 4 actes. Jamais les lieux n'ont été à ce point brillants, si je puis dire. Et ça va être un grand moment de passion, de violence, et qui se termine tragiquement, bien entendu, sur la scène. Carmen s'inspire du roman éponyme de Prosper Mérimée, dont je vais vous parler dans un instant. Chez Mérimée, l'action se situe au début du 19e siècle à Séville. Eh bien, Bizet va conserver les lieux, va conserver l'époque. Comme chez Mérimée, l'œuvre a été très longue. Elle est le fruit d'une assez longue gestation. Ce qu'il faut vous dire, c'est que le 1er octobre 1872, Bizet a connu un échec au théâtre du Vaudeville à Paris. Il a composé l'Arlésienne, adaptation d'Alphonse Daudet. La musique de scène est un véritable échec, au point même que le spectacle sera retiré de l'affiche après 20 représentations. Heureusement, Bizet va se rattraper avec une suite de 4 mouvements pour orchestre symphonique qui connaît un énorme succès. Elle est jouée au Cirque d'hiver. On aurait adoré connaître ça, ça devait être magnifique. Une bonne idée d'ailleurs de reprise. C'est presque par miracle, hein, ce succès, parce que, disons-le clairement, Bizet est un habitué des échecs. L'année d'avant, il avait composé Djamilé, un opéra comique en un acte inspiré d'un poème d'Alfred de Musset, dans lequel une esclave, Djamilé, tombe amoureuse de son maître égyptien. La pièce, là encore, avait dû être retirée de l'affiche après une dizaine de représentations. Et Bizet disait « Si vous connaissez un remède au spleen musical, enseignez-le-moi ». C'est dans ce contexte un petit peu morose quand même qu'Adolphe Deleuven et Camille Dulocle, les directeurs de l'Opéra Comique de Paris, vont demander au compositeur un nouvel opéra comique. Bizet reçoit des commandes depuis 1860. Il faut dire quand même qu'ils ont de la constance, les patrons de l'Opéra Comique, puisqu'encore une fois, on ne peut pas dire que les œuvres de Bizet soient plébiscitées par le public d'une manière générale. Ses deux amis, le compositeur Meillac et Alévi, le fils du journaliste Léon Alévi, cousin de la femme de Georges Bizet, Geneviève, il lui présente un livret, ils vont même lui en présenter plusieurs, et on ne peut pas dire que Bizet soit emballé par tout ça. Finalement, il se tourne vers Mérimée, vers le Carmen de Mérimée, qui était paru une trentaine d'années plus tôt, et, je vous le disais, dont l'action se situe à Séville. L'auteur est mort, hein, il est mort pas très longtemps avant, il est mort en 1870. Prosper Mérimée est mort avec le Second Empire. Voilà ce que nous dit Alain Duhaut dans son dictionnaire amoureux de l'opéra. Georges Bizet a beaucoup détruit, perdu son temps sur des projets inaboutis, beaucoup hésité et guère cru en lui. C'est sans doute là que gît l'un des paradoxes de ce compositeur qui a donné à tant de mélomanes l'envie d'aller en Espagne, lui qui n'y a jamais mis les pieds. Parce que ce qui est étonnant, c'est que cette œuvre tellement emblématique d'une culture espagnole poussée à son paroxysme a été écrite, a été composée par un homme qui ne connaissait pas l'Espagne, ou en tout cas qui ne la connaissait pas directement. La Carmen de Mérimée, comment vous présentez ça? C'est une grosse nouvelle, disons, ou c'est un petit roman, comme vous voudrez. Un roman qui était complètement tombé dans l'oubli au moment où Bizet l'exhume. Le roman était paru une première fois en 1845 dans la Revue des Deux Mondes, puis avait été publié comme Colomba en deux volumes, sans véritable succès. D'après des lettres envoyées à la comtesse de Montiro. La comtesse de Montiro, c'est la mère de l'impératrice Eugénie. Elle était une amie de Mérimée. L'auteur nous dit qu'il a commencé à réunir des éléments pour Carmen dès 1830, c'est-à-dire dès le premier voyage qu'il avait effectué en Espagne, d'où il devait envoyer à la Revue de Paris les fameuses lettres d'Espagne. Et dans ces lettres, il parle du reste d'une femme qu'il a rencontrée et qui ressemble à s'y méprendre à Carmen. Voilà ce qu'écrit Madame Gérard Douville dans la préface de Carmen en 1927, je cite « L'Espagne le distrait. Il a 27 ans, il envoie d'Espagne des lettres sur ce pays à la Revue de Paris qui publie ses souvenirs de voyage, plein de couleurs, de tenues et de réflexions, mais il a bien autre chose en tête et au cœur. Il rêve, Mérimée. Il rêve à ses amours finis, à l'inconstante qu'il n'oublie pas et voudrait oublier. Or des cendres jetées sur le souvenir étincelant, la flamme sournoise rampe, s'élève, s'épanouit, danse. C'est déjà Carmen. Il fréquente les gitanes, les muletiers, les danseuses. Il observe de près les célèbres et triomphantes filles qui, dans les bouges des faubourgs, au grincement ventru des guitares, au claquement mortuaire des castagnettes, au bruit des mains frappant le rythme vivant, entraînent dans les mouvements de leur danse et le délire de leur corps toutes les convoitises. » Mérimée va faire ensuite, 9-10 ans plus tard, un deuxième voyage en Espagne. Et c'est finalement en 1845 qu'il se met à écrire Carmen. Alors vous savez comment écrivait Mérimée, hein ? De très très longs mois de réflexion. Il faut dire que ses fonctions l'obligeaient, vous savez qu'il était inspecteur du monument historique, ses fonctions l'obligeaient à beaucoup voyager. Ensuite, quelques notes et puis une écriture un peu à la Japrizo, comme ça, dans un seul mouvement, en l'espace de 8 jours, Carmen est écrit. Et le 16 mai 1845, voilà ce qu'il confesse. « Je viens de passer 8 jours enfermé à écrire une histoire que vous m'avez contée il y a 15 ans et que je crains d'avoir gâtée. Il s'agissait d'un Jacques de Malaga qui avait tué sa maîtresse, laquelle se consacrait exclusivement au public. Comme j'étudie les bohémiens depuis quelque temps, avec beaucoup de soin, j'ai fait mon héroïne bohémienne. »
contrebandier sur Europe 1 de Carmen. Revenons avec vous, Franck Ferrand, justement, à la création de ce célèbre opéra de Bizet.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est bien maintenant que nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la création de l'opéra Carmen de Bizet.
Alors, évidemment, Carmen, le thème de Carmen, qui a été donc cette grande nouvelle, ce petit roman de Mérimée, est tout à fait à la mode. Il faut vous dire que pendant tout le Second Empire, l'impératrice, après tout, était elle-même espagnole. Et donc, on a mis l'Espagne très à la mode, un peu comme on l'avait fait du temps de la régence d'Anne d'Autriche. Vous savez, on essaie toujours de flatter les personnes au pouvoir. Et en l'occurrence, l'Espagne flatte également une certaine volonté d'exotisme, un certain goût pour un romantisme exacerbé, bien entendu. Bref, l'époque est hispanique, si on peut dire. Si on peut dire, il suffit de voir les tableaux de Manet, par exemple, hein, bien entendu. Bizet est décidé à incorporer à son opéra un certain nombre de musiques quasiment folkloriques. Une habanera, une séguédille, enfin bref, on va infliger, si je puis dire, au public parisien, des musiques, des rythmes, des harmonies qui sont très éloignées de ce à quoi il est jusqu'alors habitué. Et encore, je ne vous parle pas du thème qui va littéralement effrayer Adolphe de Leuven, l'un des patrons de l'opéra comique. Leuven prend connaissance du sujet et s'épouvante, nous dit Alain Duhaut. Montrer sur la scène de l'opéra comique rendez-vous des familles, lieu habituel des entrevues de mariage, l'assassinat de Carmen par son amant, et cela dans un milieu de voleurs, de bohémiens, de cigarières. Mais c'est impossible, c'est impensable. Eh oui, sauf que Leuven va devoir s'éclipser, puisque Camille Duloc va racheter ses parts et devenir seul patron, seul commanditaire de l'opéra comique. Et c'est lui, c'est Duloc, qui accepte Carmen. Lorsque Bizet se met au travail, il faut vous dire quand même que les librettistes ont un petit peu changé l'histoire de Mérimée. Elle est moins pure, si je puis dire. Elle a un côté forcément plus spectaculaire. On a ajouté le personnage du célèbre torero Escamillo, qui devient le rival de Don José. On crée le personnage de Micaela, parce qu'il faut toujours la fiancer, n'est-ce pas ? Il y a quand même un certain nombre de règles à respecter à l'opéra comique. Mais disons que l'essentiel est là, l'atmosphère, le suc particulier de la Carmen de Mérimée sont demeurés. On a toujours cette jeune femme qui travaille dans une manufacture de tabac, qui est d'un tempérament extrêmement fougueux, emporté, une sorte de passionnariat. Don José est un brigadier perdument amoureux et qui va tuer Carmen à la fin. Tout ça se passe à Séville, sur fond de feria, bien entendu. Bizet se met à travailler d'arrache-pied et jusqu'à l'été 1874, c'est-à-dire que pendant près d'un an et demi, il va travailler sur cette partition, 1200 pages en tout, travail colossal. Pour être tranquille, il a loué avec sa compagne une villa au bord de la Seine, à Bougival, charmante petite ville des Yvelines. Entre parenthèses, Bougival, hein, c'est la ville de Tourguenieff, de Berthe Morisot, etc. On est un peu dans cette atmosphère si particulière de cette création. De cette création du 19e siècle. Bizet s'acharne. On peut dire d'ailleurs que sa vie de couple va en pâtir à ce moment-là, parce qu'il est tellement habité par son œuvre qu'évidemment, ça ne facilite pas la vie avec sa compagne. Il se dispute souvent avec Geneviève. Ils vont même se séparer pendant 3 mois. Septembre 1874, alors là, les répétitions commencent, les chœurs refusent de bouger en chantant, le chœur des cigarières paraît toujours inexécutable au bout de 2 mois de travail intensif, mais ils ne sont pas habitués, nos musiciens, nos chanteurs français. Et puis, nouveau problème, la cantatrice prévue se récuse. Elle a peur, probablement, de la réaction du public, et c'est une jeune mezzo qui est choisie, Célestine Galimarier. On va en reparler tout à l'heure, bien entendu, c'est fondamental. L'actrice cantatrice, je ne sais pas comment l'appeler, a près de 35 ans. Elle a une voix de mezzo assez forte, qui la rapproche de la tessiture du ténor, si vous voulez. Presque un peu quelque chose d'androïde. Hervé Lacombe, dans le catalogue de l'exposition L'Opéra Comique et ses Trésors, nous dit « Mezzo-soprano peu à l'aise dans le grave, elle est sur le plan du caractère, espiègle et vive, déterminée aussi, qualité essentielle pour imposer ses vues lors des répétitions. Physiquement, elle est de petite taille et possède un joli minois. Galimarier fait partie de ces artistes qui ont transformé peu à peu le jeu théâtral. Elle ne chante pas un rôle, elle l'incarne. Corps, voix, gestes, costumes forment un tout dont le but est de faire spectacle autant que de créer une émotion et une impression de vérité. Le costume n'est donc pas seulement un accessoire virtuel complétant le tableau, il participe d'une construction du personnage et de l'intrigue. Et j'ai évidemment sous les yeux le portrait que Henri-Lucien Doucet a fait de Mademoiselle Galimariée dans le rôle de Carmen. C'est évidemment une toile célèbre et qui fait partie de notre exposition. Elle a été engagée en 62 à l'Opéra Comique en plein milieu du Second Empire. Un biographe a écrit un peu plus tard « Nul artiste ne pousse plus loin que Mademoiselle Galimariée, l'art plastique de la pose. Elle est sur ce point inimitable. » Il faut imaginer ce que ça devait donner avec la musique de Carmen, avec cette toute première mise en scène. Il faut dire qu'elle a souvent joué des rôles de travestie. Vous voyez, elle joue un peu sur tous les tableaux, disons. Quelques années plus tard, elle sera carrément vendredi dans le Robinson Crusoe d'Offenbach, pour vous donner une idée. Pour jouer le brigadier dont José Bizet a choisi un ténor, pour la jeune Navarrese Micaela une soprano, enfin tout ça ce sont des rôles qui sont presque distribués naturellement, de même que le rôle du baryton, ce sera celui du toréador, hein, d'Escamillo. Bizet n'est pas seul dans son travail acharné. Il faut vous dire que le directeur de l'Opéra Comique va participer réellement à la mise en place du spectacle et à sa mise en scène. On fait aussi appel à deux peintres qui ont apporté leur talent au spectacle. Édouard De Taille, qui donc a dessiné les costumes, et notamment tous les costumes des carabiniers et des dragons, vous savez. Et puis Georges Clairin, ceux des bohémiens et notamment de la diseuse de Bonaventure. Bizet retrouve Adolphe Deloffre, avec qui il a déjà travaillé sur Djamilé 3 ans plus tôt, dans le même opéra comique. Et donc, au début de l'année 1875, bien tout est prêt. La musique est prête, la mise en scène également. Bizet disait, nous avons la musique française, la musique allemande, la musique italienne et accessoirement la musique russe, la musique hongroise, la musique polonaise, sans compter la musique arabe, la musique japonaise et la musique tunisienne, très en faveur, toutes les trois depuis l'ouverture de l'exposition de 1855. Eh bien, toutes ces musiques, d'une certaine manière et à des moments différents et parfois en même temps, vont se retrouver sur la partition extraordinaire de cette Carmen avec cette habanera, bien entendu, et cette segedi dont je vous parlais tout à l'heure, bien sûr. 12 violons 1, on verra tout à l'heure ce que ça signifie, et 18 altos, 6 violoncelles, 4 contrebasses, 2 flûtes, 1 piccolo, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 harpe, des timbales et 3 percussions. Tout est prêt en ce 3 mars 1875 pour la première de Carmen. Bizet est là et il attend le public de pied ferme.
Chers auditeurs, pour réagir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages, vos questions sur l'Opéra Comique. Il y a la page Facebook de l'émission, les mails, europe1.fr ou encore via Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag CDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la création de Carmen, l'opéra de Bizet.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand à la création de l'opéra le plus joué dans le monde, Carmen de Bizet.
Mais ça, c'est maintenant. À l'époque, évidemment, c'est un peu plus compliqué. La journée du 3 mars 1875 avait plutôt bien commencé pour Bizet, puisqu'on lui a décerné la Légion d'honneur, on lui a remis la Légion d'honneur. Le matin même, il était malade. Mais vous savez ça, quand vous attendez des grands moments comme ça, souvent, c'est normal que vous tombiez malade. Il a une angine terrible. Le directeur de l'Opéra Comique est quasiment certain que ça va être un échec, cette nouvelle production de Bizet. Il affirme que la musique de Carmen paraît cochin chinoise, est totalement incompréhensible, comme son nom l'indique. Bizet souffre de cette angine, il souffre d'une certaine anxiété, il attend. Alors tous ses amis sont là, bien entendu. Il y a là Gounod, Offenbach, Massenet, Daudet, Dumas fils, tout le monde est dans le public. Et puis surtout, on se demande si la haute société qui a loué très cher l'éloge de l'Opéra Comique va faire un triomphe à Carmen ou va au contraire l'accabler. Et voilà le spectacle donc qui commence avec tout de suite Carmen qui porte du rouge, couleur qui s'oppose au jaune, la couleur traditionnelle des tenues des dragons espagnols. Galimarié est vêtue d'un corsage de gaze algérienne blanche, lamée d'or, nous dit Hervé Lacombe, une ceinture d'or, une écharpe de soie blanche rayée de rouge, lamée et frangée d'or, nouée à la taille, une jupe courte de satin jaune brodée entièrement sur le devant de fleurs à couleurs vives. Des bas chers, des mules mordorées, un collier, des boucles d'oreilles et des bracelets en gros sequins, un peigne d'or et une rose rouge dans les cheveux achèvent ce magnifique portrait. À l'acte 3, elle porte une jupe faite de châle croisé, une veste et un petit chapeau de toréador. Évidemment, la salle n'a Dieu que pour elle. Le public n'est pas franchement hostile, il faut le dire, mais à mesure qu'on avance dans l'action, il est de plus en plus décontenancé. Cette histoire d'abord, vous savez, à l'acte 1, dont José le brigadier qui essaie de mettre d'accord des cigarières en train de se disputer, qui est obligé d'aller emmener Carmen à sa prison. Et puis à l'acte 2, c'est Carmen qui va finir par faire emprisonner Don José. D'ailleurs, à l'acte 2, il est libéré, il la rejoint dans la taverne, vous savez, avec la fameuse air, la fleur que tu m'avais jetée, etc. Il va finalement suivre les contrebandiers. À l'acte 3, Don José les rejoint alors que Michaela était venue le chercher pour le convaincre de mettre fin à cette romance et de retourner au chevet de sa mère mourante. Il quitte tout, il rompt tous les ponts avec la société, avec l'ordre établi, et le voilà à l'acte 4 devenu une sorte de R. Carmen a rompu avec Don José, elle lui préfère le toréador Escamillo, et finalement Don José va poignarder la cigarière. Il se livre prisonnier. C'est moi qui l'ai tué, ma Carmen adorée. Le public de l'opéra comique est complètement, je vous disais, décontenancé, mais il ne sait même plus où donner des oreilles et des yeux. C'est très différent de ce qu'on a d'habitude. Et puis surtout, c'est une représentation beaucoup plus longue. Une fois que l'on s'est engagé dans l'égout social, dit un critique le lendemain, on est forcé de descendre encore. C'est toujours plus bas qu'on choisit ses modèles. L'état pathologique de cette malheureuse vouée sans trêve ni merci aux ardeurs de la chair est un cas fort rare, heureusement, plus fait pour inspirer la sollicitude des médecins que pour intéresser d'honnêtes spectateurs, en chérit un second. La honte d'un pareil sujet, lequel depuis 2 siècles n'avait jamais déshonoré une scène destinée au plaisir délicat et au divertissement de bonne compagnie. Voilà ce que dénonce un troisième critique. Enfin, il y a quelques avis positifs, mais disons les choses, ils sont véritablement très rares. Bizet est là. Bizet, qui s'est surmené pour mener à bien, pour accomplir son œuvre, est maintenant fatigué. Il décide d'aller se reposer en mai 75 à Bougival avec sa compagne. Et le 29, il se baigne dans l'eau glacée. Le lendemain, il est alité, il a un rhumatisme, il va faire une crise cardiaque. Le médecin arrive, il le soigne, mais Bizet ne tardera pas à perdre connaissance et il meurt dans la nuit du 2 au 3 juin à 36 ans. La voilà, la fin véritable de Carmen.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est l'opéra comique qui est au cœur de l'histoire et vous nous en parlez cet après-midi, Franck Ferrand, avec vos invités Agnès Terrier, dramaturge et conseillère artistique de l'opéra comique, également commissaire de l'exposition L'opéra comique et ses trésors qui se déroule du 7 février au 25 mai au Centre national du costume de scène et de la scénographie à Moulins dans l'Allier, et notre monsieur musique Thierry Geffretin, journaliste Europe 1.
C'est une histoire bien triste que je viens de raconter, évidemment. Et ce qui est encore plus triste, c'est que cette mort prématurée aura empêché Bizet de connaître le véritable succès, pour ne pas dire le triomphe, parce qu'après cet accueil très froid du beau monde et de la critique, en fait, ce qui est incroyable, c'est que le public va accueillir Carmen à bras ouverts, si je puis dire, et que le succès est là et qu'il est bientôt là. Voilà ce qu'en 1876, Tchaïkovski écrit dans une lettre à Madame von Meck. « Carmen, dit-il, est un chef-d'œuvre dans toute l'acception du mot, c'est-à-dire une des rares créations qui traduisent les efforts de toute une époque musicale. Je suis persuadé que dans 10 ans, Carmen sera l'opéra le plus populaire du monde entier. » Il avait bien vu Tchaïkovski, puisqu'effectivement, on peut dire, Thierry Geffretin, qu'aujourd'hui, Carmen reste l'opéra le plus joué dans le monde.
Et oui, c'est ce que l'on dit, et je pense que c'est vrai. Il y a le boléro de Ravel pour les concerts, et puis Carmen pour l'opéra comique, j'allais dire pour l'opéra, parce qu'on peut s'entendre.
Oui, alors voilà.
Est-ce que c'est avec des dialogues parlés, ou est-ce qu'on met les récitatifs d'Ernest Guiraud? Mais en effet, c'est une œuvre sublime.
Oui.
Et sulfureuse.
Et sulfureuse et d'une grande variété, etc. Alors, on parle de Carmen dans le cadre de l'opéra comique pour deux raisons. D'abord parce qu'elle a été créée dans cette salle, il faut le dire.
Oui, oui, c'est un endroit où il y a eu beaucoup de créations, parce que l'opéra comique, croyez-moi, quand on y allait, pas seulement l'actuelle salle Favart, parce qu'il y avait plusieurs endroits dans Paris,
ça
crée, hein, parce que c'est le public qui décidait du succès ou pas d'une œuvre, et derrière, eh bien, d'autres musiciens, d'autres compositeurs étaient à l'œuvre. Donc, en effet, il y a, c'est un lieu d'effervescence. On est passé d'un comique un peu grossier à un art subtil, parce qu'aujourd'hui, quand on va à l'opéra comique, le lieu est très beau. Hein. On n'est pas loin de Garnier hein, dans l'esprit. On va pour s'y montrer aussi. Pour la salle Favart, c'est un endroit magnifique. Hein.
Ah oui, d'une beauté, on va en parler.
Et donc,
on
est passé du divertissement, de ce qui plaît au bon peuple, à ce qui plaît au bon bourgeois, pour faire simple.
Alors, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on range Carmen dans la catégorie opéra comique. Alors là, il faut que vous nous expliquiez.
Alors, il faut s'entendre, parce que ce n'est pas un opéra et ce n'est pas comique.
Alors,
vous m'avez compris ?
Mais oui, c'est un opéra comique qui n'est ni opéra ni comique.
Voilà, quand on dit comique, en fait, c'est dans le sens théâtral. Et c'est une alternance de dialogue, donc de moments parlés, et de musique. En cela, c'est un peu un opéra, puisqu'il y a de la musique.
C'est l'ancêtre de nos comédies musicales, disons.
Alors, je pense que le raccourci est saisissant, mais bon, parce que souvent on dit comédie musicale, comédie donc comique, pas du tout. Si vous allez voir West Side Story, c'est pas drôle. Hein. Il y a des meurtres aussi hein, dans West Side Story.
Ce qu'on laisse entendre, c'est qu'il y a une part de théâtre.
Il y a une grande théâtralité. Et je pense que alors Wagner l'a dit. Je vais pas vous citer exactement Wagner, mais il a dit que c'était l'esprit français. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la forme, c'est-à-dire de la musique, alternance avec des dialogues parlés, parce que ça c'est assez italien. Commedia dell'arte. Hein, vous avez les Italiens sont passés par là. Dès qu'il s'agit de musique, les Italiens sont présents. Mais c'est très français. C'est-à-dire on aime à la fois l'art dans ce qu'il a de plus haut. Magnifique. Et puis, on aime aussi cet art populaire. Et en cela, l'opéra comique, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous élever et en même temps vous faire plaisir.
Alors, Agnès Terrier, avant d'entrer dans les arcanes de cette exposition, vous allez nous la faire virtuellement visiter cet après-midi. Qu'y a-t-il de Carmen dans cette expo à Moulins? Qu'est-ce qu'on peut voir?
Il y a, c'est exceptionnel, il y a les deux plus anciens costumes qu'on a retrouvé des collections de l'opéra comique. Ces deux costumes étaient conservés au CNCS, au Centre National du Costume de Scène.
Les costumes de Mademoiselle Galimarié, hein, c'est...
Non, ce ne sont pas, je vais vous expliquer pourquoi, ce ne sont pas les costumes de Célestine, ce sont deux costumes de dragon qui ont donc été dessinés par Édouard de Taille. Ce sont les costumes de la création, des costumes de 1875. C'est très rare qu'on ait conservé ainsi dans un fonds patrimonial national des costumes de la création d'un spectacle. Nous avons, pour cette exposition, référencé, identifié les costumes de l'opéra comique qui étaient conservés dans les collections patrimoniales de Moulins, ainsi que les costumes que nous conservions dans le théâtre de l'opéra comique, Salle Favart à Paris. Et en général, nous avons retrouvé des costumes splendides, mais pas toujours des costumes de la création. Donc là, on est très heureux. Les plus anciens costumes qu'on peut montrer sont deux costumes de choristes, de la création de Carmen. Alors pourquoi pas l'un des costumes de Célestine Galimarié, puisqu'elle a changé de costume à chaque acte, pourquoi pas les siens? Parce que à l'époque, en 1875, le théâtre de l'opéra comique, tout comme l'opéra d'ailleurs, n'avait pas son propre atelier de costumes, ne centralisait pas la production de ses costumes, mais ses costumes étaient produits par des ateliers parisiens, dessinés par les dessinateurs attachés au théâtre qui s'occupaient aussi de réaliser les toiles de décor. Et que pour ce qui concernait les costumes des solistes, il y avait une marge d'interprétation, de discussion entre le ou la soliste, le dessinateur et l'atelier qui se chargeait de la fabrication du costume, si bien que les costumes des solistes ne restaient pas toujours dans le théâtre, étaient plus souvent à l'atelier en train d'être touchés, ou bien en voyage avec le soliste, parce qu'après la création d'un titre à l'opéra comique, si ça marchait bien, le ou la chanteuse était amenée à faire des tournées en province ou à l'étranger, à ce moment-là voyager avec son costume. Si bien que nous avons beaucoup moins de costumes de rôles principaux que de costumes de second rôle ou de choristes, qui sont néanmoins formidables. Mais pour les costumes de rôles principaux que nous exposons à Moulins, ce sont le plus souvent des costumes que nous avons produits plus récemment. Dès que le central costume de l'opéra comique a été mis en activité Là, c'est tout à fait rationalisé, on garde tous les costumes des productions. Donc on montre dans cette exposition à la fois ces costumes très anciens des dragons en 1875 et à la fois le costume que portait Anna Caterina Antonacci en 2009 lorsqu'elle a interprété le rôle de Carmen dans notre production mise en scène par Julianne Noble et dirigée par Sir John Eliot Gardiner.
Alors quand on parle d'opéra comique, immédiatement les images qui viennent sont des images du 19e siècle et de la Belle Époque. Mais ce qu'on découvre dès le début du parcours de cette exposition, c'est que l'opéra comique, ça remonte bien plus haut que ça. Ça nous ramène au règne de Louis XIV en vérité.
Mais oui, l'opéra comique est né il y a 300 ans. L'opéra comique est né à la fin de l'année 1714, donc sous le règne de Louis XIV.
Toute fin du règne, oui.
Qui n'a probablement jamais rien su de la naissance de l'opéra comique parce que les négociations ont été menées principalement entre deux petites troupes foraines et l'opéra qui s'appelait à l'époque Académie Royale de Musique et qui avait le monopole sur le théâtre lyrique, donc le théâtre chanté. Et donc un accord est intervenu entre ces deux troupes foraines qui avaient récupéré les procédés des comédiens italiens qui chantaient et jouaient la comédie jusqu'à la fin du XVIIe siècle à Paris. Récupérant ces procédés et souhaitant les exploiter dans un répertoire en langue française, ces forains se sont adressés à l'institution royale prédominante, l'opéra, l'Académie royale de musique, et ont obtenu l'autorisation de produire un spectacle qui mêlait, comme vous l'avez très bien dit, la comédie parlée et le chant et la danse qui étaient les prérogatives de l'opéra, la comédie parlée étant la prérogative de la comédie française. Donc le spectacle s'appelle Opéra comique, c'est un peu de chacun et pas trop de chacun. Et dès lors, donc, entre les deux foires parisiennes principales qui étaient la foire Saint-Laurent à la fin de l'été et la foire Saint-Germain à la fin de l'hiver, des foires qui étaient très belles, hein, des lieux de sociabilité où on vendait des denrées très élégantes, de très beaux produits et où se produisaient des troupes de théâtre intéressantes dans de très jolis petits théâtres qui étaient refaits chaque saison, avec des loges pour accueillir le public raffiné, un parterre pour le public plus populaire, etc. L'opéra comique, donc, dès février 1715, a donné ses spectacles comme une petite troupe qui a construit son répertoire, qui a commencé à le publier dès 1720. Et ainsi, ses origines foraines, populaires, entre guillemets, parce que, en vérité, l'opéra comique attirait tous les publics, le public plus populaire de la journée, mais le public très élégant du soir. L'opéra comique attirait les spectateurs de la comédie française et de l'opéra qui venaient à l'opéra comique pour voir un décryptage en quelque sorte, parce que l'opéra comique des débuts propose des parodies, des grands spectacles qui marchent sur les scènes royales, qui sont un peu extraordinaires, qui disposent de beaucoup de moyens, qui sont éblouissants mais pas toujours très compréhensibles. Il y a de la mythologie, il y a de la tragédie tout le temps. À l'opéra comique, c'est plus léger, c'est plus drôle, mais c'est un spectacle qui est composé de plein de choses très différentes. La pantomime, la machinerie, la danse, le chant, la comédie.
Il y a un caractère agrégatif, en fait.
Absolument.
C'est ça. C'est assez éclectique, oui. Thierry Geffrotin.
Oui,
ce genre.
On fait une synthèse, vous le dites très bien. On fait une synthèse, c'est-à-dire qu'on amuse le chaland avec une farce, une satire, une parodie, mais finalement, on l'emmène là où il n'irait jamais, c'est-à-dire à la cour, assister à une tragédie lyrique. Et en cela, géographiquement, on est dans Paris alors qu'on était à Versailles, mais il y a une transition qui se fait naturellement. Musicalement, on utilise des airs qui sont plus ou moins connus, faut pas rêver non plus, on ne chante pas dans la rue, c'est pas Figaro avec Mozart, hein, tout n'est pas connu, mais on utilise des mélodies qui traînent par-ci par-là et qui deviennent très populaires.
Un des personnages clés de la troupe qui va amener en quelque sorte le réalisme sur scène et sur une scène musicale, c'est Mademoiselle Favart, il faut en dire quelques mots peut-être.
Oui, Madame Favart.
Madame, pardon.
Mademoiselle de Chantilly qui devient Madame Favart.
On appelle les comédiennes Mademoiselle, mais enfin en l'occurrence c'est l'épouse de Monsieur Favart.
C'est Madame. Elle a en effet, c'est une danseuse qui devient comédienne chanteuse, qui épouse Charles-Simon Favart, régisseur de la troupe et auteur formidable du répertoire à partir du début des années 1740. Et Madame Favart, en effet, excellente interprète, mais comme l'ont été ses prédécesseurs dans la troupe, hein, a ceci de formidable qu'elle est aussi auteure, compositrice, et qu'elle va très loin dans une recherche du réalisme du costume de scène. Et par costume, on entend aussi la pose, les expressions du visage, le jeu. Donc c'est elle qui, dit-on, hein, peut-être que d'autres l'ont fait avant elle sur la scène de l'opéra comique, mais elle devient un grand modèle. C'est elle qui, la première, joue les paysannes avec des costumes de paysannes et de la paille dans ses sabots, pieds nus. Sans aucun bijou,
elle fait croire à ce qu'elle
perruque, sans coiffe particulière et qui commande ses costumes en Orient quand elle interprète des sultanes, etc.
Sur Monsieur Favart, puisque la salle porte son nom, j'ai trouvé dans ses mémoires une chose incroyable. Pourquoi aujourd'hui ça s'appelle la salle Favart? On se dit parce que cet homme-là était librettiste, il était très important. Mais pourquoi il est devenu librettiste? Écoutez plutôt, il dit « Mon père aimait le spectacle, il me menait souvent à la comédie, de préférence à l'opéra comique, qui existait donc de son temps, dont le genre était plus analogue à sa gaieté. Je composais pour lui faire ma cour une pièce en vaudeville dont il fut si enchanté qu'il ne me gêna plus pour mes occupations littéraires. » C'est-à-dire qu'il a fait plaisir à son père et là-dessus il est devenu librettiste. C'est quand même incroyable.
Il a donné son nom à l'une des plus belles salles de spectacle de Paris.
Tout ce qui chantait
Nathalie Dessier sur Europe 1 avec un extrait des Contes d'Hoffmann. Dans un tout petit instant sur Europe 1, nous vous retrouvons Franck Ferrand avec vos invités pour la suite d'Au cœur de l'histoire sur l'opéra comique.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est l'opéra comique qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec vos invités, Agnès Terrier, dramaturge et conseillère artistique de l'opéra comique, commissaire également de l'exposition L'opéra comique et ses trésors qui se déroulent du 7 février au 25 mai au Centre national du costume de scène et de la scénographie à Moulins dans l'Allier. Et puis notre monsieur musique nous accompagne également, Thierry Geffretin, journaliste à Europe 1.
Alors je dois avouer que pour cette émission, je n'ai pas encore fait le voyage de Moulins. Je ne suis pas allé voir cette expo. C'est un endroit extraordinaire, hein, ce Centre national du costume de scène. C'est tout à fait magnifique et j'imagine que là vous avez mis de grands moyens. À l'étage, paraît-il, vous avez carrément reconstitué le foyer de la salle Favart, c'est ça?
Non. Non, ça c'est une idée que nous avions il y a encore un an, autour de laquelle nous discutions avec Macha Makeyev qui a réalisé la scénographie de cette exposition. Mais en effet, les moyens dont nous disposions au Centre national du costume de scène étaient formidables. Non, c'était finalement pas ce qu'on a préféré faire. On souhaitait, avec Macha Makeyev, montrer que l'opéra comique était un lieu de vie, un lieu de création, un lieu de théâtre où se croisent les artistes, les danseurs, les spectateurs, les techniciens. Il fallait faire sentir ce foisonnement permanent. Pendant très longtemps, cette maison, comme vous l'avez dit, jouait tous les soirs, parfois plusieurs titres par soir, et accueillait toute la société parisienne. Et puis c'était aussi un répertoire qui voyageait beaucoup en province et à l'étranger. Donc c'était un répertoire imprégné de chaque époque, du goût de chaque époque, et qui répondait aux attentes du public. Et c'est ce foisonnement que nous avons souhaité restituer, donc au cours d'un parcours qui commence un peu comme un parcours historique, en effet, où on traverse les foires parisiennes, puis on entre dans l'intimité des Favart, et où assez rapidement, lorsqu'on atteint le premier étage qui est gigantesque et où nous avons pu déployer
toutes
nos collections,
en fait, hein,
voilà, on est plutôt guidé dans le répertoire, en effet, par les héroïnes, chaque héroïne importante ouvrant un pan du répertoire. Carmen nous présente donc l'importance de l'Espagne dans ce répertoire. L'Acmé nous présente l'inspiration orientale. Manon nous raconte comment l'opéra comique s'est plu au fil des siècles à raconter l'histoire nationale de façon plaisante. Mignon d'Ambroise Thomas nous raconte la présence très importante des nations européennes et de tous les clichés qui sont véhiculés autour de chaque nation dans le répertoire de l'opéra comique. Donc c'est une façon assez amusante d'explorer le répertoire guidé par les héroïnes. Et puis, il y a aussi des salles qui ne fonctionnent pas sur ce principe qui est important dans les salles où nous mettons les costumes derrière des vitrines. Mais dans les salles où il n'y avait pas de vitrines, il fallait faire vivre autrement les costumes. Et là, on raconte davantage soit l'histoire de l'opéra comique de façon très plaisante, soit on présente les métiers, les savoir-faire du central costume de l'opéra comique, qui est vraiment très très pointu aujourd'hui sur beaucoup de domaines de création du costume, en particulier sur la teinture naturelle. Et puis on a voulu aussi rendre justice à la création, parce que c'est un théâtre où étaient créés 10-12 titres par an, hein. Donc on avoisine les 3000.
C'est une création fondamentale, bien sûr.
C'est pour ça qu'il y a de grands chefs-d'œuvre comme Carmen, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de créations moins importantes, mais qui permettaient de s'essayer. Donc on a une grande salle finale qui raconte la création et la recréation.
Vous avez cité Manon tout à l'heure. Oui. Alors là, c'est pas l'héroïne, c'est le héros, c'est le ténor qu'on va entendre. En l'occurrence, c'est Roberto Alagna à fuyer.
Roberto Alagna sur Europe 1 avec un extrait de son titre à fuyer.
Manon de Massenet. Alors Thierry Geffrotin, vous disiez, moi j'aime beaucoup cette salle Favart et cet opéra comique. Il faut peut-être bien expliquer que pendant très longtemps, il y avait une distinction nette entre l'administration, la gestion de l'opéra de Paris et puis de l'autre côté, l'opéra comique qui était une institution à part entière. La fusion a lieu à quel moment à peu près ?
Alors la fusion, si je ne m'abuse, alors déjà la grande crise de 29 a eu raison de l'opéra comique, c'est-à-dire que vers 1936 la salle je ne sais pas si elle ferme, mais en tout cas c'en est fini des grandes époques. Et en 71, de tête, la troupe est dispersée, la troupe disparaît. Une troupe, c'est important, hein. Aujourd'hui on ne sait plus ce que c'est qu'une troupe en France. En Allemagne ils connaissent bien, c'est-à-dire que dans un opéra on fait venir suivant les affiches, on fait venir des chanteurs, on a toujours un chœur, mais en Allemagne on a encore ce phénomène de troupe, et c'est très important parce que ça crée un répertoire. Et donc en 71, et de 71 à 90 de tête, hein, l'opéra comique devient une annexe de l'opéra de Paris. C'est un studio théâtre, voilà, c'est pas là où on met les costumes et où on met les chanteurs en devenir, mais c'est un peu ça quand même, hein. Et depuis voilà un petit quart de siècle, c'est redevenu une institution à part entière. Avec des
les années 90 ont été flamboyantes,
oui,
faut le dire,
même, hein. La fin des années 90, vous avez grandes créations, Jean-Marie Villégié, grand metteur en scène, a fait revivre la salle. Et depuis, on a eu à la fois des reprises et des créations. La salle Favart, aujourd'hui, c'est un endroit où il se passe des choses. C'est pas seulement le vieux répertoire de l'opéra comique, ma pauvre dame, vous savez.
Et pourquoi d'ailleurs dit-on ça ? Parce qu'après tout, c'est un répertoire qui est au moins aussi vivant que
l'autre. Alors, parce qu'on a du mal à faire la différence entre opérette, opéra bouffe, opéra comique.
Alors, c'est quoi d'ailleurs la différence ?
Alors, en fait, je dirais que l'opérette...
Là, on passe de la salle au genre.
Oui, au genre. L'opérette... a vu le jour au moment où l'opéra comique comme genre est devenu plus sérieux. Je vous disais qu'à l'origine c'était des satires, des farces un peu grossières.
C'était un peu parodique.
C'était une parodie, puis ça s'est un peu embourgeoisé, mais il y a toujours cet esprit parisien, on va le dire comme ça, qui fait qu'on aime bien rire. Et là, l'opérette a pris le relais de ce qu'était l'opéra comique. Et puis l'opéra bouffe, finalement, c'est les origines de l'opéra comique. Vous savez que l'opéra italien, vous avez l'opéra sérieux, l'opéra seria, et puis l'opéra bouffe, là où on s'amuse. Il n'est plus question de mythologie, comme disait Agnès Terrier. Là, on est là pour rire, pour le peuple. Et voilà, donc les trois entités, les trois genres, opéra bouffe, opérette, opéra comique, dans l'esprit du public, oui, toujours le mot opérette, opéra, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, il y a vraiment des distinctions. Et tout ça, ça évolue avec le goût du public et avec les compositeurs et les librettistes aussi, très importants, qui donnent un peu plus de matière. On est un peu plus dans le sérieux, Carmen étant un exemple.
Hein. Péléas et Mélisande écrit à l'opéra comique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est loin des opéras bouffes. Hein,
oui, c'est plutôt moi je dirais que c'est un opéra quand même, Péléas.
Si je puis me permettre, c'est le moment où depuis un quart de siècle, à l'opéra comique, il y avait deux veines qui coexistaient, ça se voit très bien sur les frontispices des partitions. Il y avait les ouvrages qui continuaient à être des opéras comiques alternant parler et chanter, et il y avait les ouvrages qui étaient des drames lyriques. Ça, c'était une veine très importante qui était apparue sous l'influence de Wagner, qui était très prégnante dans la musique française, et beaucoup de compositeurs français comme Chabrier, Bizet, Massenet, étaient était extrêmement intéressé par le drame lyrique, c'est-à-dire, bien sûr, Poulenc plus tard. Ils étaient très intéressés par le fait de pouvoir se débarrasser du dialogue parlé, qui n'était plus obligatoire depuis 1864. Il y avait eu une libéralisation là-dessus, donc on pouvait s'en passer. Et par ailleurs, cette souplesse qui permettait d'accompagner le texte tout du long par de la musique, de verser vers le drame, d'approfondir les émotions des personnages, d'abandonner un certain nombre de conventions qui plaisaient au public bourgeois, celui qui s'offusquait devant Carmen, mais qui pouvait peut-être les générations passant être prêts à être émus par les grandes héroïnes de Massenet. Donc on a ces deux veines dans l'opéra comique. Et d'ailleurs, lorsque la troisième salle Favart ouvre ses portes en 1898, les deux statues qui accueillent le public sont la statue de l'opéra comique, celle qu'on appelle Manon aujourd'hui, et la statue qui représente le drame lyrique, qui quelques années plus tard a été remplacée par la statue de Carmen. Car aujourd'hui, le public est accueilli par Carmen et Manon. Mais le public était accueilli par deux genres, c'est étonnant. Le drame lyrique, ce qui montre qu'il était bien inscrit depuis un quart de siècle dans le répertoire, et l'opéra comique. Donc en effet, Péléas et Mélisande surprend beaucoup à l'époque, surtout parce que c'est du théâtre musical, c'est la première pièce de théâtre musical. C'est une pièce en prose, il n'y a quasiment pas eu de retouche de la part de Debussy. La pièce existe en tant que telle depuis une dizaine d'années. Et puis sa musique se veut extrêmement discrète et en même temps, elle prenant la place des silences de Maeterlinck, elle apporte un foisonnement intérieur, enfin la vie intérieure des personnages en est complètement dévoilée. Mais ça fait partie des drames musicaux très nombreux créés à l'opéra comique depuis plusieurs années, parce qu'on avait aussi créé à l'opéra comique les drames naturaliste de Bruno et Zola. Enfin, on avait une veine naturaliste dans le répertoire. C'était une maison de création extrêmement riche qui rendait justice à toutes les tendances de la modernité. Ça, c'est quelque chose qu'on va montrer dans une autre exposition, si je puis me permettre.
Vous préparez déjà la prochaine émission.
C'est-à-dire qu'il y aura une autre exposition cette année, puisque c'est le tricentenaire, qui ouvrira ses portes le 18 mars prochain au Petit Palais, et qui s'appellera De Carmen à Mélisande, drame à l'opéra comique, où on racontera la façon dont toutes ces tendances esthétiques très modernes se sont retrouvées ensemble au même moment dans la salle Favart. La deuxième, celle qui a brûlé en 1887, d'où le drame, ou la troisième, celle qui ouvre ses portes en 1898. Et en effet, cette maison est restée cruciale pour les artistes parisiens, pour la création musicale, littéraire et visuelle, tout ce qui est chorégraphie, décor. Cette maison est restée très importante jusqu'au moment où, comme vous le disiez Thierry, la réunion des théâtres lyriques nationaux a fait absorber l'opéra comique par l'opéra à la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'est un état de choses qui est resté en place pendant un demi-siècle et qui a bien failli coûter très cher à l'opéra comique parce qu'il en a perdu pendant un certain temps son identité.
Merci beaucoup Agnès Terrier. Je rappelle le titre de l'exposition, l'opéra comique et ses trésors. C'est donc à Moulins, au Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie, dans une scénographie justement très spectaculaire. Merci beaucoup Thierry Geffrotin. Grâce à vous, l'opéra comique
allez-y.
N'a plus de secret
voilà,
pour nos auditeurs.
Allez-y.
Venez.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Bruno sur la raison de la présence très forte de noms allemands dans le négoce des vins de champagne.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Bruno. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait savoir pour quelle raison il y a autant de noms allemands en vins de champagne.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a des affinités, disons déjà, entre cette région de l'Est et puis l'Alsace et puis l'Allemagne derrière. Il y a un certain nombre de personnalités allemandes qui vont commencer à s'installer. Par exemple, je pense à Charles Koch qui fonde sa maison à Avize au sud d'Épernay en 1820. À Mumm, qui est issu d'une famille de producteurs de Riesling en Allemagne, qui à partir de 1827 collabore avec des négociants champenois. En 1852, il devient directeur d'une maison de champagne à laquelle il va donner son nom, la célèbre maison Mumm. Et puis, après la guerre de 70, il y a beaucoup d'immigrés allemands également en Champagne qui vont être naturalisés français et qui vont se développer dans ce domaine. Certains deviendront propriétaires ou actionnaires. Je pense à Édouard Verlet pour Veuve Clicquot, à Heitzig, à Rödrer, à Bollinger qui va devenir Bollinger pour nous, etc. Donc il y a eu, c'est vrai, de très grandes affinités et c'est une assez juste observation que faisait Bruno. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck, aujourd'hui nous recevons un des hommes les plus connus de la mode et du monde, Karl Lagerfeld. On va le faire parler d'actualité, des défilés qui commencent la semaine prochaine et puis surtout profiter de sa présence pour une séance de relooking extrême. Franck, si jamais
c'est
vous avez un doute sur ce petit col pelle à tarte, c'est le moment ou jamais.
Bon, eh bien, le col pelle à tarte vous dit à demain, Marion. Il le dit aussi à Céline.
À demain, Franck.